Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec le top chef de la critique Olivia de Lamberterie du L, Arnaud Vivian, non seulement de Regards et de Transfuge, mais aussi et surtout de la revue Charles avec Jean-Claude Raspien-Jas, de La Croix qui est venue avec ses admiratrices ce soir, je le sais, et avec le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française pour parler de La Chef de Marine Diaye, mais également des Lettres à Anne de François Mitterrand, du Petit Pays de Gaël Faye, du Motel du Voyeur de Guette à l'aise et de Briser la glace de Julien Blangras dans le courrier. Bien, beaucoup de réactions, il fallait s'y attendre, n'est-ce pas Arnaud, à propos de Laetitia d'Yvan Jablonka qui a reçu la semaine dernière, je crois que c'était le 2 novembre, le prix Médicis. Et si Corinne Otero de Paris remercie Arnaud et Jean-Louis d'avoir remis à sa juste place Laetitia, présentée comme un livre novateur qui retrace la vie d'une victime et qui n'est qu'un livre quelconque et boursouflé. Et Jean-Jacques Thomas d'Orléans dénonce les jugements méprisants et à l'emporte-pièce de vos deux histrions et juge que Laetitia est un livre rare, comme on a la chance d'en lire que rarement une oraison funèbre digne de Bossuet, où à chaque page, l'intensité le dispute à la justesse. Un moment fort dans la vie d'un lecteur, Pierre Le Pilouer de Valoris, ne comprend pas l'emportement d'Arnaud contre le livre de Jablonka. Pourquoi une telle agressivité? Il y a des maladresses chez l'auteur, c'est indéniable, mais je trouve qu'elle trahisse le choc qu'il a lui-même subi au contact de cette histoire et que nous subissons à notre tour, ou encore Antoine Perrin de Nantes, qui nous dit « Yvan Jablonka restitue parfaitement la courte et triste vie d'une pauvre petite victime, enfant de la DAS, comme dans d'autres affaires, et qui généralement sont passées sous silence, un livre profondément humaniste et touchant », ou encore Nida Smidren, qui est juge d'instruction et qui nous écrit une très longue lettre, je ne peux lire que la fin, je suis en complet désaccord avec les propos très durs tenus par vos deux chroniqueurs. Je les invite à venir passer quelques jours dans les cabinets d'instruction ou les services d'enquête. Et la comparaison avec Emmanuel Carrère, nous dit Nida Smidren, tourne à mon sens au profit de Jablonka. Carrère se fait mousser dans ses livres, Jablonka au contraire s'efface. J'ai conseillé Laetitia à des avocats, à mes collègues et à mes parents afin qu'ils comprennent ce que je vis lorsque je suis confronté à l'immonde. À moi que tu veux réagir, non, rien. Sinon, Thomas Giraud du Havre nous dit « J'ai suivi votre conseil unanime et me suis jeté sur l'autre qu'on adorait de Catherine Cusset, ça c'est chez Gallimard, attiré par la promesse d'une découverte du monde universitaire proustien. Quelle déception de lire la vie non pas du héros dandiesque et décadent annoncé, mais celui d'un jeune bouffe dépressif. Emmanuel Morel, que vous arrive-t-il? Dans la même émission, vous comparez le livre de Catherine Cusset au grand roman russe et vous éreintez le livre de Jean-Baptiste Delamo, Règne animal. Quelle tristesse de passer à côté de ce roman âpre, dur, violent, dérangeant. J'ai reçu tellement de lettres et messages sur ce Règne animal que je vais en garder pour le prochain Masque et la plume. Si encore Anne-Sophie Boquet qui répond à Arnaud Vivian qui a dit que le métier de médiathécaire n'existe pas, c'est faux. Je travaille à la médiathèque d'Emerainville, situé juste à côté de Pont-au-Combeau. Mes salutations à Monsieur Aisine et je suis médiathécaire. Enfin, pour vous faire un peu sourire, c'est Emeline Roula qui est prof de 4e au collège Jean-Jacques Rousseau au Pré Saint-Gervais et qui nous écrit « J'ai tenté l'expérience, faire écouter à mes élèves de 4e un masque littéraire. » Eh bien, ils ont aimé. Ils ont ri, ils ont été étonnés d'entendre que certains d'entre vous ne lisaient pas le livre entièrement. Entre parenthèses, comme eux. Ils ont été surpris par ce débat animé, vos paroles cinglantes, eux qui vous imaginaient sérieux. Et ils ont à leur tour joué les critiques avec bonheur. Merci à vous. Bon, on va essayer de faire une émission qui puisse plaire à la 4e du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré Saint-Gervais. Et on commence avec basketter la révélation de cet automne, d'ailleurs étrangement passée à travers les filets des Grands Prix. Je veux parler de Petit Pays, chez Grasset, le premier roman de Gaël Faye, le chanteur, rappeur, slameur, né, je le rappelle, en 1982 au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père entrepreneur français. Roman où il raconte son enfance plutôt heureuse dans ce petit pays à Bujumbura. On vivait sur l'axe du Grand Rift, à l'endroit même où l'Afrique se fracture, jusqu'au jour où ses parents vont se séparer et où la tragédie génocidaire du Rwanda va provoquer un véritable séisme. À la fois tutsi, français, métis, bref, étranger, il est contraint en 95, il a alors 13 ans, de s'exiler en France. En somme, c'est l'histoire d'un enfant dans la guerre. Je rappelle, et plutôt précise, que Gaël Faye vit, je crois, aujourd'hui à Kigali, enfin en tout cas, moitié Kigali, moitié Paris, c'est ça ?
Et ses enfants.
Et donc voilà, je crois qu'il a eu prix FNAC au tout début de la saison, mais je pensais qu'il allait être voilà, sur la liste des grands prix. Il est passé à côté. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre, Olivia ?
Beaucoup de bien. J'ai trouvé que c'était un livre qui sonnait toujours très très juste à l'oreille, qui est tout à fait dans la famille du petit Nicolas. Hein. Alors j'ai lu après dans une interview qu'il n'avait pas lu le petit Nicolas, mais je trouve que toute la première partie du livre sonne tout à fait comme...
La partie heureuse.
La partie heureuse sonne très juste et est racontée vraiment à hauteur d'enfant. Et ça, je trouve que c'est toujours une réussite. Parce que il est exactement comme un petit garçon qui vous raconte le soir sa journée, avec exactement les mêmes fondamentaux que dans le petit Nicolas, l'école, les copains, le vélo, les grandes vacances, et avec un langage qui, je trouve, n'est jamais affecté, n'est jamais sentimental, parce que les enfants ne sont pas sentimentaux, que la première partie, c'est vraiment le paradis perdu. Il y a des scènes vraiment très drôle et très forte, je trouve, notamment quand ils vont se baigner dans une piscine qui est interdite et qui sont chassés par le gardien après que le petit Gabriel se soit fait la peur de sa vie en voulant épater ses copains et en faisant un plongeon, et puis ils sont chassés, ils sont tout nus dans la voiture, et ils racontent, je trouve, l'allégresse pure de ces mamans d'enfance. Et puis après, on se prend une claque dans la gueule, alors vraiment, il n'y a pas d'autre mot, avec le récit du Rwanda qui est fait par sa mère.
On retrouve beaucoup de ce qu'avait écrit Scolastique Mukasonga.
Oui, tout à fait.
Elle est une rescapée de
tout à fait.
Du Rwanda.
Et il le raconte avec une grande sobriété. Et en même temps, il raconte comment sa mère se transforme d'abord en une furie. Sa mère qui a été obligée d'enterrer les restes des cadavres de ses petits-neveux. Et comment elle devient folle. Tout ça est raconté, je trouve. Il n'y a jamais un mot de trop. C'est jamais exotique. C'est jamais sentimental.
Et encore une fois, un premier roman.
Moi, j'ai été capté, je trouve, du début jusqu'à la fin par ce livre.
Arnaud ?
Oui, c'est pas mal. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'étais un peu... moi, je ne connaissais pas Gaël Faye, je dois dire.
Tu veux dire, tu veux dire le slameur, le rappeur ?
Oui, le slameur, ouais. Le rappeur. Après, je suis allé un peu écouter sur Internet. Ça m'a laissé froid, dire vrai. Mais bon, peu importe. Là, c'est le livre dont il s'agit. J'étais un tout petit peu gêné parce que je me demandais finalement si c'était une autobiographie ou un roman. C'est pas très clair dans le livre.
Mais c'est vrai de quasiment tous les romans de la rentrée. Hein.
Oui, c'est un peu le cas de tous ces romans. Donc on voit bien qu'il est métis comme lui-même l'est. Hein. C'est un peu notre Stromae à nous, si j'ai bien compris, Gaël Faye.
Oui, c'est entre Stromae, oui, ouais. C'est ça, et grand corps malade.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre, c'est que effectivement, c'est la guerre vue du point de vue d'un enfant, par le regard d'un enfant. Sauf que ils vivent finalement dans une enclave.
Oui.
Ils sont très protégés par rapport à tout ce qui se passe. Bon, ils sont au Burundi, ils sont pas au Rwanda, même si c'est juste à côté, qu'il y a une espèce de porosité là, évidemment, qui est aussi la porosité même de sa vie, c'est-à-dire qu'il est un enfant métis. Et donc ils reproduisent dans leur petit groupe de copains finalement les mêmes déchirements, c'est-à-dire qu'on passe de la haine à l'amitié d'une manière tout à fait soudaine. Il y a une scène très forte où son copain veut le tuer, veut le noyer, enfin son copain qui est son ennemi, mais qui va devenir ensuite son copain pour redevenir ensuite encore son ennemi. Donc c'est ça en fait, c'est les enfants reproduisent les déchirements qu'il y a autour d'eux, qui sont des déchirements entre ethnies, Tutsis, Hutus, mais ça va encore plus loin, puisque là, c'est le début de la démocratie, finalement, au Burundi. Ça commence par la première élection démocratique. Ça rappelle un peu, d'ailleurs, le très beau livre qu'avait sorti Vincent Haine, Les flamboyants d'Abidjan, au printemps dernier, qui parlait exactement aussi de ce moment où, finalement, les Français ne sont plus des colons, puisque l'Afrique, enfin, ce pays-là, est devenu démocratique. Mais ils sont encore dans une situation très particulière. Ils sont malgré tout les dominants. Et je trouve que le livre raconte bien ça aussi. On voit cette vie de gens qui ne sont plus des colons comme autrefois, mais qui sont toujours, encore une fois, dans un rapport de domination par rapport à la population locale. Et tout ça est très bien raconté. Et oui, ça fonctionne, quoi.
Jean-Claude,
c'est très bien rendu.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas comment il a pu passer à travers le filet des prix. Moi, je trouve que tout est formidable dans ce livre. Tout est réussi. L'histoire, les dialogues, les portraits, les atmosphères. C'est vrai que c'est à hauteur d'enfant, mais moi, je n'arrive pas du tout à faire l'analogie avec le petit Nicolas, parce que d'entrée... Et depuis le début, il y a une gravité. Une gravité comme ça, en bruit de fond, même dans les scènes d'enfance.
Oui, mais c'est aussi parce qu'on sait ce qui va se passer.
Oui, mais quand même. Mais quand même.
Que tu entends dans les chuchotements, dans la conversation des adultes, voilà, c'est qui est très bien rendu d'ailleurs.
Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'ils sentent très bien, enfants, les fractures invisibles sous l'énigme des chuchotements. C'est bien que tu emploies ce mot, parce que précisément, il y a des chuchotements d'adultes autour d'eux. Ils ne comprennent pas, mais ils sentent que quelque chose va arriver. Ils le sentent confusément, voilà. J'aime beaucoup le rapport aussi avec l'Occident qui passe par la petite correspondante d'Orléans. Dans les collèges, enfin les écoles primaires, on a des correspondants et des correspondantes. Il y a une petite correspondante d'Orléans et qui lui écrit, dont il va tomber amoureux. Mais
ça, c'est très petit Nicolas pour le coup là.
Mais non, parce que non, moi je trouve pas, parce que je trouve que ce que lui écrit la fille d'Orléans est assez platonné. Pour ne pas dire assez indigent, ça se termine, la première lettre. Est-ce que vous avez bien reçu le riz qu'on vous a envoyé? Et la réponse qu'il lui fait est absolument formidable. Mais formidable, formidable. Et juste un petit
truc. Je suis pas sûr qu'elle soit pas romancée, cette réponse.
Oui, mais d'accord. Bien sûr.
Et quand il lui dit. De toute façon, c'est pas un roman autobiographique.
Mais non, c'est pas un roman autobiographique, bien sûr. Il n'a pas.
Non.
C'est pas l'histoire de sa vie. Mais non. L'histoire, ce sont ses souvenirs de petit garçon. Mais heureusement, ce n'est pas son histoire.
Non, mais tu vois, par exemple, sur la gravité morale, quand il se fait piquer son vélo qu'on lui a offert à Noël. Bon. Il y a toute une traque qui s'organise où le vélo traverse quasiment toute l'Afrique, quoi. Ouais. Et on part, et au fur et à mesure, on ramasse des cousins et tout ça, et tout pour aller le chercher. Et quand enfin il trouve le vélo qui a été racheté, mais 10 fois, il y a un dilemme moral extraordinaire qui s'empare du gamin, qui n'est pas celui du petit Nicolas, quoi. C'est vraiment, on est
le voleur de bicyclette.
Oui, c'est le voleur de bicyclette. Et alors, ce qu'il y a de très bien dans ce livre, c'est qu'il saisit très bien le moment où ça bascule de l'insouciance à la peur. Comment un génocide naît, c'est le cas de le dire, à cause des différences de nez. Et là où c'est pas autobiographique, évidemment que la scène finale, enfin le dernier chapitre...
Non, je ne le dis pas.
Je dis juste
Et ça rappelle bien que le Burundi est voisin du Rwanda, et c'est par le Burundi que la plupart des victimes rwandaises, d'ailleurs, celles qui ont pu échapper au massacre, ont réussi à fuir, dont justement la petite scolastique. Un mot, Michel ?
Ah, c'est vraiment un très beau livre. Moi, j'ai été très, très sensible à une chose surtout, c'est la douceur dans laquelle ce livre raconte quelque chose qui a une relation très étroite avec le contraire de la douceur, la violence, la terreur, la peur. Et il arrive à l'équilibrer, enfin, il arrive à le montrer d'une manière vraiment extrêmement touchante. Et alors, il y a deux scènes, vous avez évoqué beaucoup de scènes, j'en ai deux petites autres aussi qui me restent en mémoire. C'est un soir, il est avec sa sœur. Le dîner a eu lieu, la nuit tombe, on n'entend rien. Et c'est très bizarre qu'on n'entende rien parce que ce n'est pas habituel. Et alors, on voit très bien l'ombre qui monte, enfin, sur l'enfance. On voit que quelque chose va changer. Et puis, il y a ce récit de ils vont à un mariage, je crois, il faut faire 50 kilomètres, mais ces 50 kilomètres, il faut passer le poste avec les soldats qui ne sont pas gentils du tout et qui même cassent la vigne de la voiture. Il y a une tension terrible. Mais tout ça est encore une fois, raconté. C'est vraiment très étonnant de voir qu'on peut dire des choses, on peut raconter des choses extrêmement graves en restant dans la douceur. C'est très fort, ça.
Ces petits pays, c'est chez Grasset, c'est signé Galfaille. Et à propos de douceur, je crois que c'est un marqué d'une pierre blanche. On est le 13 novembre. C'est la première fois qu'on fait un masque littéraire qui commence avec l'éloge unanime d'un livre. Je crois que je n'ai pas connu ça depuis des semaines, voire des mois.
Je crois que c'était arrivé pour Leïla Slimani.
Absolument, qui a reçu la semaine dernière le prix Goncourt pour un roman. À mon avis, Le Masque a beaucoup contribué, d'ailleurs. Non, à son succès, ça c'est vrai, mais peut-être aussi
Nancy,
à la récompense.
On en avait parlé à Nancy.
Éloge pour ce premier roman de Gaëlle Faye. Maintenant, on passe à la chef. Roman d'une cuisinière, le nouveau roman chez Gallimard de Marine Diaye. Je rappelle, prix Femina pour Rosie Carp, prix Goncourt pour Trois femmes puissantes. Une chef qui n'a pas de nom, elle est née dans le roman au début des années 50 à Sainte-Bazeille dans le Lot-et-Garonne, dans une famille pauvre, la plus pauvre du village. À 16 ans, elle est placée dans une famille bourgeoise des Landes qui lui demande de remplacer la cuisinière au pied levé. Et là, elle va découvrir ses dons. On passe en 73. Et là, toujours dans le sud-ouest, cher à Jean-Claude, elle ouvre son propre restaurant qui s'appelle La Bonne Heure, à la carte. Tout ce qu'aime Jean-Claude, tourte aux écrevisses, beignets de cervelle d'agneau à la sauce d'anchois. Ça, je suis pas...
C'est un délice.
Non, ça, je suis pas sûr. Rôti de bœuf au miel de lavande. Et bientôt, évidemment, une première étoile. Seulement, voilà, la gloire, pour ne pas dire la fortune, elle s'en fout. Si on me récompense, dit-elle, c'est que j'ai démérité. Belle formule. La chef est en effet une femme plutôt austère qui pratique le jansénisme gastronomique jusqu'au jour où sa fille unique, qui vit au Québec, revient en France et décide de moderniser le restaurant de sa mère. Je m'arrête là parce qu'il y a un épilogue que Jean-Claude va raconter après. Tout cela raconté par un homme vieillissant qui a été son bras droit en cuisine et qui l'a beaucoup aimé. Michel, qu'en as-tu pensé ?
Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Moi qui suis peu connaisseur en gastronomie.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Quoi ?
Tu baffres dans tous les restaurants, c'est connu.
Je dément totalement cette affirmation.
Tu sauces tes assiettes jusqu'à la dernière goutte.
Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup. Mais non, moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans ce livre, c'est la dimension du portrait. C'est-à-dire que.
Ça t'as compris ça. Oui, c'est un portrait de femme, oui.
Oui, oui. Et c'est finalement assez rare de voir des livres qui reposent entièrement sur un principe de portrait. On a des livres qui vous racontent des histoires, qui développent des intrigues, etc. Là, c'est bien sûr qu'il y a une intrigue, il y a une histoire, évidemment, mais tout ça est contenu à l'intérieur de cette espèce de...
L'essentiel, c'est le parcours de cette chef, hein.
Oui, mais c'est surtout la sensation qu'on retire à la lecture d'être en face de quelqu'un. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est en réalité, je pense pas que ce soit si courant dans les romans aujourd'hui d'arriver à ce stade de mise en présence d'un personnage. Et moi, c'est ce qui me plaît en ce moment, c'est ça.
Et voilà. Sans parler du vol au vent aux huîtres de Camargue, qui est aussi un grand moment du livre, Jean-Claude.
D'accord en partie avec l'unanimité du début va
avec le sud-ouest, t'es d'accord
jusque là, oui, mais ça va se fissurer là, notre unanimité.
L'unanimité, pour l'instant, il y a que Michel qui parle.
Ce qu'il faut signaler aux auditeurs, c'est que je lis la presse et que je vous ai lu, donc je m'attends exactement à ce que vous allez dire puisque vous l'avez écrit, à moins que vous contredisiez. Oui, mais tu viens de parler, donc c'est fait.
Donc ça rigole pas ce soir.
On voit que Jean-Claude est venu avec ses fans. Hein.
Alors, un bus entier.
Okay, okay.
Un
bus théoriquement, entier. Il est très gentil. Hein.
Venu du sud-ouest.
Théoriquement.
Venu du sud-ouest. Quant à c'est juste une parenthèse. Quant à la fin que je serais censé... D'abord, je ne le fais pas, je ne m'appelle pas Pierre Murat. Et ensuite, cette fin, elle est donnée par le narrateur très, très vite.
Ah oui, mais ça, on peut pas le savoir.
Mais tu vois, je ne dis rien.
Mais on ne peut pas le savoir.
Mais si, il le dit.
Si on n'est pas arrivé au bout, on ne peut pas le savoir.
Il ne dit pas quels vont être les détails, mais il explique que de toute façon, la trajectoire va être celle qui est celle du livre.
Voilà. Ah oui,
dans les relations.
Ah oui,
alors,
allez, raconte la fin. Oui. Il y en a marre.
Bon,
c'est un livre sur la fin, après tout. Ouais,
donc, oui. Alors, c'est un livre savoureux. C'est un festin de mots en ce qui concerne notamment les recettes et les noms de plats, qui en plus évitent le ridicule de ces chefs qui mettent des noms de plats qui sont absolument grotesques. Là, chaque plat dont elle fait la recette et dont elle donne le nom, qui est un nom assez inusité, il n'y a pas de ridicule. En effet, le portrait est intéressant.
Tout étant totalement inventé.
Oui, bien sûr.
Alors, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est chez toi d'ailleurs, qu'elle avait... un modèle qui était une des grandes restauratrices lyonnaises, la mère Brasier, je crois, mais je ne sais, mais pour le reste, tout est totalement inventé, y compris les plats.
Y compris les plats, voilà, c'est ça. Et elle réussit là un prodige qui est de ne pas rendre ridicule le nom des plats qu'elle donne et ensuite la façon. Par exemple, le premier plat que fait la chef chez ces gens qui sont du Lot-et-Garonne, mais qui vont passer leurs vacances
dans leur... Il faut, faire le poulet, refaire.
La description qu'elle en fait est absolument formidable. Bon, pareil, il y a une énigme au cours du, dans le livre, qui est un récit en italique, dont il faut un certain moment pour comprendre que c'est la narrateur qui a changé de vie et tout ça, et comprendre en plus que ce livre est un tombeau, c'est-à-dire que c'est pour une femme qui est morte. Bref, tout ça serait extraordinairement séduisant si ce que vous avez, vous, vanté dans vos journaux, moi, m'a posé un vrai problème, c'est-à-dire ce côté absolument chantourné de ces phrases, le côté...
Oui,
c'est des phrases très longues qui en servent. C'est des phrases très longues.
Avec des guirlandes.
Oui, voilà. Non, mais c'est des phrases très, très longues. Moi, je rentre dans chacune de ces phrases avec beaucoup d'appétit, et avant d'arriver à la fin, je suis complètement repu, à chaque fois. Et quand elle revient, à un système plus épuré, dans sa phrase, alors là, c'est du vrai bonheur. Le problème, de mon point de vue, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe à vouloir faire l'éloge de cette femme qui n'est dans la simplicité.
Dans le jansénisme.
Voilà. Et d'utiliser un style qui est à l'envers de ça. Moi, ça m'a posé un problème tout le long du livre. Et ça m'a un peu empêché de goûter les plats et de goûter ce livre avec plaisir. Je le trouvais un petit peu bourratif et surchargé à beaucoup de moments.
Gigot Danu en habit vert. Je me suis posé la question de savoir ce que c'était exactement. Est-ce que c'est un académicien qu'on aurait mis au four ? Est-ce que c'est un...
Je sais pas. C'est une hypothèse.
Olivia.
Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé, alors que je ne m'intéresse pas du tout à cette folie de l'époque qui est la nourriture.
Mais tu regardes toutes les émissions de...
Non, alors vraiment, je peux regarder vraiment The Voice, mais je ne peux pas regarder Top Chef, par exemple. Ça ne m'intéresse pas du tout, les gens qui font la cuisine. Et ça ne m'intéresse pas tellement non plus d'en manger. Je peux manger des choses très mauvaises.
En fait. C'est intéressant, cette émission, parce qu'on apprend beaucoup de choses.
Ouais. Oui, non, je... Bon.
Donc tu manges des choses mauvaises.
Oui, sans aucun déplaisir. J'aime beaucoup les hamburgers, par exemple.
Ah,
mais j'ai adoré ce livre, ce qui prouve que quand le livre est bon, peu importe le sujet, parce que je trouve que c'est un livre très paradoxal. Et ce que j'aime bien chez Marianne Diacre, c'est qu'on ne sait jamais comment c'est fait. Il n'y a pas tellement d'écrivains dont tu ne vois pas l'envers. Et là, je trouve...
Aussi, quand on a lu ses précédents, c'est dans la suite logique.
Mais
hein.
Là, il y a vraiment beaucoup de paradoxes.
Si, c'est une femme puissante aussi.
Oui, c'est une femme puissante, c'est une femme très austère. Et je trouve que c'est un livre très grisant et enthousiasmant. Donc déjà, c'est le premier mystère du livre. Et après... C'est un livre qui est raconté par un de ses anciens commis qui l'adore. C'est un exercice d'admiration, mais qui en fait tourne au processus de démolition parce que il va raconter les failles de cette femme. Et au lieu d'ériger une statue, il va la rendre humaine. Et je trouve qu'il y a un truc, cette femme qui est très austère au début, elle devient extrêmement touchante. Enfin, en tous les cas, moi j'ai été très touchée par le portrait de femme dont parlait Michel. Après, il y a un autre truc qui est troublant, c'est que parfois, on a vraiment l'impression que Marie-Anne Diaye parle du métier d'écrire.
Oui, c'est cuisiner, écrire, c'est pareil. Hein,
et voilà, et qu'elle parle d'elle. Et je trouve que dans ce livre, c'est un peu le portrait d'une époque où tout doit être spectaculaire, où tout doit être flatterie, où tu dois te montrer, où les chefs font la couverture de Paris Match, c'est devenu des vedettes. Et comment résister à ça ? Moi, je trouve que c'est aussi le portrait...
En écrivant un livre comme ça.
Exactement. C'est le portrait de Marianne Diacre qui refuse de céder à toutes ses sirènes.
Ça fait penser
à
la Françoise de Proust.
C'est un très beau livre. Hein. Oui. Et pas du tout en guirlandais, non.
Non, il a dit chantourné.
Chantourné,
non, mais c'est pas chantourné.
Michel a dit guirlande.
Je retire le mot, c'est pas chantourné, mais c'est très, très, très long.
Oui, mais ça, elle a toujours une manière d'écrire comme ça.
Oui, mais
elle
lisait en famille, relisait.
Très puissante.
Oui, mais aussi peut-être en raison de cette mode dont tu parles, effectivement, de la. Ou maintenant, la cuisine.
C'est un livre très beau, très mystérieux.
Oui, tout à fait.
Un art.
C'est le contraire du bio qui est partout.
Exactement. Oui.
Mais tu penses à quoi, par exemple ? C'est une phrase générale. Tu penses à quoi ?
C'est le contraire des végétariens qui envahissent les dîners.
Le bio, c'est ce qui se présente à moi en permanence.
Tu ne sais plus quoi faire à dîner maintenant parce qu'il y a des végétariens. Il y a des végétaliens.
Tu nous parlais de dîner maintenant, tu nous parlais des.
Eh bien là, c'est le contraire.
Sans gluten ou avec gluten.
Voilà, exactement.
C'est fou.
C'est un livre avec gluten.
Voilà.
Arnaud, tu pourrais nous dire si tu manges
bien,
pas bien.
Ce livre m'a emmerdé. Mais alors, je peux même pas vous raconter combien il m'a emmerdé.
Déjà, toi, t'aimes bien Marianne Diacre ?
Ah, j'adore Marianne Diacre. Mais vraiment, j'étais désespéré. Je dis, mais que fait-elle ? Mais que fait-elle, quoi ? C'est une espèce d'autoportrait en cuisinière, raconté par ce débile. Débile, quand même.
Oh,
hein.
Il est malheureux.
Oui, enfin,
amoureux
mais quand même,
et malheureux.
Au bout d'un moment, là, je dirais, c'est un débile. Un débile profond.
Mais ça fait des bons livres.
Oui, non, mais chez Faulkner, ça fait un bon livre. Et voilà, mais là, ça fait pas un bon livre. C'est un débile, quoi. Et donc, on le voit tout de suite. Et d'ailleurs, on voit qu'elle a un problème avec ce livre. Ça se voit dès le titre, hein. On dirait un titre de François-Olivier Gisbert. La chef roman d'une cuisinière. Quand même, on n'en revient pas, quoi. Je veux dire, Marie Ndiaye, la chef roman d'une cuisinière. Eh, faut choisir, ma chérie. Soit la chef, soit roman d'une cuisinière. Mais tu mets pas les deux, quoi. Je veux dire, c'est comme dans la cuisine. Il y a un moment, il faut choisir les ingrédients. Les blocs d'italique. Franchement, quand un romancier commence à faire des blocs d'italique, c'est qu'il a un problème mécanique qu'il n'a pas su régler. Pour nous expliquer que là, le narrateur, alors c'est dans une autre période, et là tu te dis, oh là là, et tu es obligé d'utiliser l'italique pour ça, ouais. Eh bien je crois que tu as un petit problème mécanique, et tu devrais t'en soucier un peu, Marie. Marie, je t'adore, mais franchement, ce livre est totalement raté.
La voilà. Même unanimité a volé en éclats.
Ah, oui, mais ça ne pouvait pas durer très longtemps. Hein.
Et je ne te dis pas ce qui va suivre.
La chef roman d'une cuisinière, c'est donc de Marie Ndiaye et c'est chez Gallimard. Avant de venir aux lettres de Mitterrand, un mot du motel du voyeur, traduit, parce que ça c'est un livre que j'ai inscrit uniquement pour Arnaud, oui, traduit par Michel Cordillo et Lazare Bitoun, c'est aux éditions du Sous-Sol.
Ils se sont beaucoup amusés.
C'est un livre de Guettalaise, 84 ans. Qu'on appelle le pape new-yorkais du nouveau journalisme, grand connaisseur de la mafia et de Sinatra, et voyeur comme Arnaud devant l'Éternel. Tout commence par une lettre anonyme que Thalèse reçoit en janvier 1980. L'homme qui lui écrit raconte qu'il est voyeur et qu'il a acheté un motel à Denver, où il a découpé, d'ailleurs avec l'aide de son épouse, de petites ouvertures de 15 cm sur 35 dans le plafond des chambres. Michel, il me regarde avec un air bizarre. Afin de voir sans être
facile.
Vu. Activité quand même à laquelle il s'est livré pendant des décennies. Thalèse décide alors de rencontrer cet homme, alors qui est un ancien militaire, bon père de famille, qui va lui donner son journal intime où tout est noté de la vie sexuelle du motel, y compris un meurtre auquel le voyeur a assisté sans pouvoir agir. 35 ans plus tard, le voyeur révèle son identité, il s'appelle Gérald Fosse, et Thalèse publie enfin son livre. D'ailleurs, je me demande, et je continue à me demander s'il existe vraiment, si c'est pas un... Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, en tout cas, ça ne demande pas de piquant. Oui, connaissant tous tes vices, Arnaud, j'ai donc inscrit pour toi ce motel du voyeur. Est-ce que tu as pris ton pied?
Oui, alors je veux répondre à ta question. C'est un faux complet.
Ah, tu penses que c'est un faux?
Oui, c'est un faux complet, mais ça se voit, d'ailleurs, ça se sent. C'est, comme tous les faussaires, il s'agit de mettre des signes.
Toute la vie et l'œuvre de Guettalaise repose sur, vraiment, du journalisme authentique.
Oui, mais il y a des avait d'ailleurs fait une enquête.
Il y a des faux qui sont tellement réussis que ce sont des vrais.
Oui, oui, mais là, c'est clairement un faux. Et on le voit, alors, déjà, rien...
Mais est-ce que le personnage a existé ou pas?
Rien, mais non, mais bien sûr que non, tout ça, à mon avis, tout ça est une invention pure et simple de Guettalaise. D'ailleurs, rien que le nom, il s'appelle
Gérald Fosse. J'en ai parlé avec l'éditeur.
Vous entendiez bien faux et vous entendiez bien false aussi, en anglais. Et donc, quand on voit...
Arnaud, est-ce que tu le sais ou tu en déduis?
Ah non, je l'ai déduit. Je l'ai déduit en lisant. Alors, je vous
donne... L'éditeur Adrien Bosque m'a dit il y a quelques mois que c'était une histoire totalement vraie.
Bien sûr, mais Adrien Bosque peut raconter. Ça commence par une note de l'éditeur. D'ailleurs, c'est pas Adrien Bosque qui l'a signée, c'est l'éditeur soi-disant. C'est pas l'éditeur américain. Elle n'est pas signée. C'est comme la note de l'éditeur au début de Lolita. Vous voyez, à peu près du même niveau de crédibilité. Je vous en lis juste une ligne dans cette préface, très intéressante d'ailleurs. Qu'importe le degré de mensonge, nous sommes en pleine fiction dans le roman de Gérald Fosse. Et nous nous interrogeons sur notre désir de croire, notre aveuglement volontaire sur lequel s'appuie toute mystification. Alors, qu'est-ce qui m'a donné le sentiment sûr et certain que c'était un faux? C'est le cahier photo. À partir du moment où il y a un cahier photo, c'est qu'on cherche à prouver que c'est vrai. Alors, quand vous voyez la photo de la bouche d'aération, qui en plus est bouché, parce qu'il faut savoir que donc soi-disant il aurait revendu son motel et donc il aurait bouché. Alors vous la voyez, la bouche d'aération bouchée. Donc vous comprenez que tout ça est hilarant et impossible. C'est-à-dire que il est supposé voir dans les toilettes, par exemple, de la chambre. C'est-à-dire non seulement elle fait 35 cm sur 15 cm. À un moment, il raconte qu'un homme a réussi à rentrer.
Il dit, c'était un tout petit homme. Sauf que, vous imaginez quand même. Donc, il se fout vraiment. À un moment, d'ailleurs, c'est très intéressant. Il raconte une histoire tellement grivoise et extrêmement drôle que je ne peux pas la raconter.
Oui, mais moi non plus, j'ai évité d'en raconter. Bah, parce que,
voilà.
Il y en a beaucoup.
Celle-là,
hein.
Celle-là est formidable. Et comment ça se termine? Ça se termine par... C'est donc Guétalaise, là, pour le coup, qui écrit. Dans une note en bas de page à propos de cet épisode, le voyeur s'interrogeait dans son journal, se trouvera-t-il quelqu'un pour croire tout ça et réellement, que tout cela est réellement arrivé? Et vous savez quoi? Les traducteurs, que tout ça soit réellement arrivé, les traducteurs disent, nous nous sommes abstenus de corriger certaines constructions de phrases, des concordances de temps ou des étrangetés. C'est des traducteurs français.
Bon, dis-moi l'essentiel, ça t'a plu ou pas plu?
Ah oui, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est quoi? Pourquoi il fabrique un faux? Il le dit à la fin, c'est qu'il dénonce la société de surveillance généralisée, la société panoptique chère à Michel Foucault. Il parle de Snowden, il parle des caméras de surveillance. Et c'est donc un récit totalement inventé pour dénoncer la situation dans laquelle nous vivons, où nous sommes effectivement regardés, contrôlés, surveillés par les autorités.
Y compris au lit, donc.
Surtout au lit.
Surtout au lit. Jean-Claude?
Ah ben moi je suis très ébranlé par ta démonstration parce que j'étais parti pour faire
un peu pour argent comptant.
Ah ben moi complètement et en plus alors mais moi aussi Adrien Bosque m'a assuré que c'était vrai. Donc je l'ai lu comme ça
et enfin, c'est pas le problème.
Mais si c'est un peu le problème parce que si c'est vrai par exemple il couvre un meurtre qu'il a un peu provoqué, faut bien le dire. Il assiste
oui,
à un certain
nombre de choses. Mais quand Guétalaise fait des recherches curieusement, ouais, il ne trouve pas. Rien. La
alors,
police dit
alors,
il n'y a jamais eu de meurtre.
Si tu veux, à plein de moments, en effet, Guétalaise dit ouais, les dates concordent pas. Ouais, ça paraît bizarre. Ouais, j'ai du mal à le croire. Mais enfin, tout de même, tout ça. Donc moi, au bout d'un moment, j'avais un vrai malaise au fur et à mesure que j'avançais. Surtout que les conclusions étaient quand même d'une grande banalité. Ce type qui prétendait avoir un laboratoire d'observation unique au monde parce qu'il voulait comprendre le secret de l'intimité des humains et tout ça, qui tirait des conclusions générales du genre les vacanciers sont très malheureux. Ouais, quand même le truc. Et le type avait pas d'état d'âme, c'est-à-dire que quand il a provoqué ce meurtre, il a pas d'état d'âme, quoi. C'est-à-dire qu'il a observé les choses. Bon, ben oui, il aurait peut-être pu bouger quand il a vu que la fille était quasiment morte, mais bon, il attendait le lendemain matin. Soit elle se réveille, soit elle se réveille pas. Enfin bon. Donc moi, au bout d'un moment, si tu veux, j'en avais un peu marre. J'étais mal à l'aise et je me disais, mais c'est un
livre qui est fait pour mettre mal à l'aise.
Non, mais c'est un livre glauque sur un pauvre type, quoi. Vraiment sur un pauvre type. Et je m'apprêtais à dire, si vous voulez lire du bon Guétalaise, si vous voulez sauver l'auteur.
Ah bah le Sinatra est formidable.
Oui, mais la revue Feuilleton, dont s'occupe Adrien Bosque, fête ses 5 ans. Et là, il y a une sorte d'autobiographie de Guétalaise qui raconte d'où il vient.
Guétalaise, hein, pas Guy. Guétalaise.
Oui, Guétalaise. Mais alors voilà, donc tu m'as, alors là, je dois reconnaître que tu m'as complètement ébranlé.
Olivia.
C'est pas très drôle comme livre. Moi, je l'ai pris comme une bêtasse, donc je l'ai lu comme si tout était vrai. Hein. Je me suis pas. Bon. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit que si c'était pas vrai, c'était pas très grave. J'ai trouvé que le projet était dément. Que l'idée du type en train d'observer ces gens était vraiment fascinante et excitante, mais que le résultat...
Excitante ?
Bah oui, parce que moi, il y a un côté
toi,
voyeur.
T'aimes bien, toi.
Mais bien sûr, j'adore regarder mes voisins derrière le rideau, évidemment que j'adore. Donc je comprends très
comment
bien...
Comment la vraie blonde Hitchcockienne...
Évidemment.
En bouffant des hamburgers.
En bouffant des hamburgers, exactement, c'est ça ma vie.
D'ailleurs, voici les photos.
C'est ça ma vie, c'est pas un film d'Hitchcock, parce que la réalité de ce qu'il voit, c'est glauque.
C'est glauque, ça c'est vrai.
Et c'est banal. C'est en fait, excuse-moi, les gens, ils arrivent, ils prennent une douche dans le meilleur des cas.
L'histoire des représentants d'aspirateurs, elle est formidable.
Oui, parce que t'as deux, trois histoires rigolotes, mais dans la majorité des cas, les gens, ils prennent une douche, ils se déshabillent, ils regardent la télé et ils parlent d'argent ou de leur famille.
Enfin, ils font pas que ça, hein.
Ah bah, alors, après, il y a des rapports qui sont faits cliniques de ce qu'il a vu. Alors, il y a des petits trucs. Alors, celui-là, 1m80. Bon, mais tout ça est extrêmement clinique. Donc, à la fin de l'année, 32 fellations, 52...
Il fait des statistiques.
OK. Et donc, quand même, pendant 300 pages, tu vois un mec qui est perché dans un grenier en train de se palucher autour de gens qui sont en train de faire l'amour plus ou moins bien. Moi, je trouve que, en fait, c'est un peu désespérant sur la nature humaine, ce livre. Parce que
c'est sûr, ça n'a pas été écrit pour...
Une espèce de comme ça, c'est un livre qui est dénué d'empathie, dénué d'humour, quand même, je trouve.
Ah non.
Ah bah si, il n'a pas beaucoup d'humour. Et qui est glauquissime. Donc, par rapport au projet, s'il est vrai ou faux, je trouve que le résultat est assez... ennuyeux.
Michel, tu es un peu voyeur toi aussi, je crois, non?
Oui, très.
Ouais.
J'adore ça.
Je regarde avec Michel.
J'ai arrêté à mi-parcours. Parce que j'ai détesté le malaise savamment entretenu par les l'auteur du livre, je ne sais pas s'ils sont 2, 3, 4, si c'est vrai, si c'est faux, je m'en fous complètement. Ce que je demande à un livre, c'est de me faire rencontrer du monde.
Enfin là, t'en as du monde.
Mais non, justement, c'est un livre. Pour moi, j'aurais bien aimé que Baudrillard, le regretté Baudrillard, n'écrive pas un texte sur ce livre en parlant de l'hypnose, enfin, en parlant de ce drame du voyeur qui ne peut pas s'empêcher de vouloir épuiser le visible, alors que...
Épuiser le visible?
Oui, épuiser ce qui se montre à lui, ce qu'il voit. Et qui évidemment ne le satisfait, ne peut pas le satisfaire, et zut quoi, le malaise, c'est vrai que c'est glauque, c'est sinistre, c'est absolument pas drôle du tout, je voyais vraiment pas pourquoi j'allais m'attarder plus longtemps, donc je suis parti.
Le motel du voyeur, c'est donc Guette à l'aise, et c'est aux éditions du Sous-Sol, très différent. Les lettres à Anne, 1962, 1995, chez Gallimard. Il y a du voyeurisme, mais c'est plus élégant. La volumineuse correspondance amoureuse de François Mitterrand avec Anne Pinjot, en même temps que paraît, toujours chez Gallimard. Journal pour Anne, 64-70, qui est un recueil de notes et de collages, tout aussi amoureux. Alors c'est vrai que ces 1200 lettres ont fait rêver, depuis leur parution, beaucoup de gens qui pensent que les politiques ne s'envoient que des textos ou des émoticônes. Et là,
les
donc, on est au siècle dernier. Donc, un homme politique pouvait déclarer sa flamme à une femme dans de longues lettres passionnelles. Je rappelle que quand ils se rencontrent sur la plage d'Osgore, lui a 46 ans, il est sénateur de la Nièvre. Et Anne, jeune fille rangée d'une bourgeoisie plutôt de droite, auvergnate, en a 19. Au début, il la vouvoie, puis à partir de mai 64, j'ai regardé, il la tutoie. C'est très intense, vous m'avez fait aimer non seulement un visage, une tendresse, un don de soi, mais aussi un besoin d'absolu, une recherche spirituelle. Il écrit même des poèmes pour elle, de longs poèmes. Ah si, il y en a beaucoup, des poèmes. Si, j'ai tout lu. François est un amoureux lyrique, exclusif. On oublierait presque qu'il est marié à Daniel Gouze et qu'il a 2 fils. Je peux t'aimer comme une femme est rarement aimée. Je crois que j'ai la force qui fera de notre histoire la beauté d'une vie. Alors, c'est une correspondance qui ne contient que les lettres de François Mitterrand. Il y a quelques notes, mais vers la fin, de Dan Pinjot. En même temps, on mesure aux lettres de Mitterrand, qu'elle réclame quand même ses droits, et que les choses se calment à partir de la naissance en 74 de leur fille Mazarine, ce qui d'ailleurs nous vaut une lettre absolument incroyable, 4 ans plus tôt, une lettre freudienne, où il dit à Anne qu'elle est son enfant et qu'il va faire un enfant à son enfant, qui pour moi est un moment exceptionnel de psychanalyse, une correspondance qui s'arrête au seuil de sa mort, à l'automne 95, avec ces mots « Tu as été ma chance de vie ». Et pour vous, bien sûr, j'ai noté cette petite lettre du 17 juillet 1972, envoyée depuis Lhatché, donc à mon âne chérie. Et il parle d'un voyage. On part, on voit des paysages, on entre dans des églises nouvelles, on s'émerveille, on a l'air de Saint-Benoît dans les veines, on rentre, avec un peu de chance, le masque et la plume, on s'aime et on dort. Formidable, non ? À l'époque, vous n'y étiez pas encore. Olivia.
Mais sais-tu que j'ai croisé une fois Anne Pinjot et elle m'a dit « Je vous écoute au masque et la plume ».
Ah bah tu vois, donc, elle avait commencé en 72.
Oui. Ah bah moi j'ai adoré ce livre. Moi je me suis arrêtée, j'ai tout arrêté. Pendant 3 jours, je n'ai fait que lire ces lettres que j'ai lues d'une traite. Parce que Anne Pinjot est pour moi le personnage le plus romanesque qui soit. C'était jusqu'à présent le personnage le plus mystérieux, puisqu'elle n'avait jamais parlé, et que donc ça fait des années qu'on imagine des choses sur elle. Et je trouve que, évidemment, ce qu'on découvre sur Mitterrand est formidable. Mitterrand, amoureux éperdu, qui demande des rendez-vous, qui quête une minute, c'est prodigieux. Tout ce qu'il raconte sur sa vie spirituelle, il était vraiment très très occupé par ça. Il dit « Je n'ai pas votre foi, mais j'en suis tout occupé ».
Il n'a pas entendu la fin pour parler des forces de l'esprit.
Absolument. Hein. Il y a des choses vraiment sidérantes sur Mitterrand, mais moi, ce qui m'a captivée, c'est Anne Pinjot. Comment une jeune fille qui vient de cette famille tellement traditionnelle, elle qualifie son milieu de patriarcal. J'ai évidemment écouté les entretiens qu'elle a donnés sur France Culture, où elle dit que c'était un milieu où les filles étaient soumises et n'avaient pas le droit d'avoir de vie intellectuelle. Comment cette fille qui arrive à 16 ans à Paris, elle est dans un foyer de religieuses, l'ancien foyer de Madame de Récamier, elle apprend à faire des vitraux. Et pourquoi elle apprend à faire des vitraux? Parce qu'à cette époque, les filles, avant de se marier, avaient le droit de faire une activité artistique. Donc elle, c'était pas la couture, c'était des vitraux. Et elle rencontre cet homme qui est marié, qui a deux enfants. Je trouve que c'est inouï. Et ce qu'on avait imaginé depuis des années, c'était que finalement, elle s'était faite à cette situation. Mmh. Et
pas
en fait, ce qu'on découvre, c'est que pas du tout. C'est que pendant 15 ans, elle a lutté contre cette situation. Elle ne fait que le repousser. Elle dit qu'elle est malheureuse d'être heureuse avec lui. Je trouve que c'est sidérant.
Et lui est malheureux d'être repoussé.
Et lui est malheureux, exactement. Et donc, elle résiste, elle résiste, elle résiste. Et alors, elle met très peu de lettres d'elle. Et la première lettre qu'elle met d'elle, elle est sidérante. C'est une lettre qu'elle n'a pas envoyée. Et c'est une lettre de rupture. C'est en 71. Et elle lui dit des trucs dingues, elle lui dit « Si l'amour libre me prive de maison, d'enfant, d'espoir, de calme, de sécurité, de dignité, il doit au moins rester libre. Non, je n'ai pas de devoir envers toi, je t'ai appartenu de 19 à 28 ans, il me semble que c'est assez pour me rendre compte de l'impasse. » Et après, c'est elle qui a fait l'édition de ses lettres. Quelques lettres plus loin, elle glisse une lettre qu'elle lui a envoyée, qui est là une lettre d'amour. Alors on voit qu'à partir de la naissance de Mazarine,
les choses changent. Mais parce que aussi la famille,
que c'est elle qui décide de cet enfant.
Si
et là, elle fait un autre truc extraordinaire, Anne Pinjot.
Moment, en fait.
Attends.
À partir du moment où elle arrive à Paris, déjà les choses changent.
Non, c'est
vraiment en 74. Elle décide de la naissance de Mazarine. Là, il y a des lettres très très joyeuses parce que alors elle dit que Mitterrand est d'accord pour avoir un enfant à condition que ce soit une fille. Il y a quand même une liste de prénoms masculins où on apprend que Mazarine, si c'était un garçon, aurait pu s'appeler Che, ce qui était quand même assez savoureux.
Oui, parce qu'on apprend qu'il avait un poster du Che
à
Osgore.
Et il y a une autre chose qui est sublime, c'est les lettres des parents quand Anne Pinjot leur annonce qu'elle est enceinte.
Les lettres séparées et du père et de la mère. Là, on est au 19e siècle.
C'est l'état d'une France
qui
n'existe plus.
Il n'y a jamais eu de fille-mère dans la famille.
La mère, elle ne peut même pas écrire dans sa maison, elle va dehors. Ah non, mais elle va dans le jardin et ils racontent leur sidération et en même temps, c'est débordant de tendresse. C'est un livre inouï.
Arnaud, qu'en pense le patron de la revue Charles ?
Mitterrand est notre éditorialiste à Charles, vous savez.
C'est pour ça que j'ai l'habitude de le lire.
Je
te posais la question.
Voilà, à chaque fois, donc, on publie un édito de Mitterrand, on va chercher dans ses archives un texte qu'il a écrit sur le sujet dont nous traitons. Et jusqu'à présent, on a toujours trouvé, par exemple, sur le rock'n'roll. Et là, il y a une lettre. On est en 1967. Il est à San Francisco et il va voir un concert qu'il raconte donc à Anne Pinjot, un concert hippie, comme il dit. Et là, Mitterrand devant un concert hippie, j'ai quand même noté quelques phrases. Le batteur a bien cassé 10 baguettes, sourd à son tintamarre. Le guitariste lance de longues plaintes hurlantes. Le troisième ne crie on ne sait quoi. C'est l'explosion d'une société, dit-il. Et il conclut en disant je me raisonne aussi en pensant à ces malades de drogue et de l'âme qui seront plus drogués et plus privés d'âme encore quand notaires ou directeurs de banque, ils géreront la même société. Mitterrand a un concert hippie en 1967. Et je voudrais dire une chose, c'est que à un moment, on parlait d'émoticômes tout à l'heure, mais je me demande si Mitterrand n'est pas l'inventeur du smiley.
Il y a beaucoup de smiley.
Et pourquoi, alors, je me suis dit, c'est quoi ces smiley? Eh bien, c'est dès qu'ils ont un rapport sexuel et il y a un petit smiley.
Dans le bras de Anne.
Pas que. Non. Il fait un petit dessin pour Anne, mais sinon, il y a comme un petit soleil. Et à chaque fois, ce sont leurs rapports sexuels qui sont notés très précisément.
Il a inventé le smiley, en plus.
Oui, il a inventé le smiley. C'est vraiment intéressant parce que, d'abord, il y a l'idée de noter à chaque fois. Il y a deux choses qu'il note tout le temps, c'est ses parties de golf. Et là, quand même, on se dit que cette jeune fille...
Il y a un nombre incalculable de parties de golf.
D'une vingtaine d'années, doit être absolument fascinée par le récit des parties de golf de François Mitterrand.
Avec son père.
Vous imaginez ? Oui, avec son père, assez souvent, ouais. Et d'autre part, une relation très exacte, une notion très exacte de leur rapport sexuel, tous notés, donc, avec ces petits émoticômes. Rien que ça, déjà, vous dites, c'est prodigieux.
Michel.
Alors, moi, comme Olivia, j'ai tout arrêté pour
1200 pages, encore une fois. 1200 pages.
1200 pages. C'est sidérant. C'est sidérant de beauté pour moi. J'ai assisté à des discussions d'ailleurs depuis d'amis, etc. La discussion tournait sur est-ce qu'il aurait dû, enfin l'aspect moral, etc. L'aspect. Mais non. Enfin, la première chose à dire de ce livre, de cette correspondance qui est une des plus belles que j'ai lues dans ma vie, c'est la beauté.
Très très belle lettre.
C'est la beauté.
Et très longue lettre. Il y a des lettres qui font 20 pages.
Mais c'est incroyable. Enfin, on écrivait comme ça au temps de Chateaubriand, qui est d'ailleurs cité au moins 7 fois dans le livre. J'ai regardé un année.
En même temps, les textos de Sarkozy à Cécilia étaient quand même pas mal non plus. Hein.
C'est le nouveau journalisme.
Si tu reviens, j'annule.
Non,
tout.
Et là.
Oui. Ah oui, je l'ai bien quand même. Ça a même donné le nom d'une émission à France Inter quand même.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est comme un mouvement, un peu comme au théâtre quand on change le décor. Ce que nous voyons au début, au premier plan, pendant des années, qui était l'action politique, l'existence publique de Mitterrand, l'invisibilité d'Anne Pinjot, et tout ça, là, tout à coup, ce qui était derrière passe devant, et on est dans une intimité absolument incroyable qui moi, m'a vraiment bouleversé.
Alors, intimité qui disparaît relativement quand il arrive à l'Élysée, puisque là, en revanche, il y a beaucoup, beaucoup moins de lettres.
Oui.
Évidemment, il y a des échanges même parfois un peu protocolaires. Il la félicite, elle a la patronne du musée
c'est
d'Orsay,
un peu comme
par
si
exemple.
Parce qu'elle a effectivement décidé finalement de faire lire ses lettres. Et c'est un peu comme, c'est la prisonnière de Proust qui décide d'ouvrir la porte.
Elle est emprisonnée par ses lettres.
Elle est emprisonnée.
Il la ligote tous les jours.
Oui,
en fait.
Mais alors, c'est la prisonnière qui finalement décide d'ouvrir la porte. On peut entrer, elle peut sortir. Mais elle reste en même temps. Enfin, c'est
Jean-Claude.
Étonnant.
Non, mais moi je suis d'accord avec vous. C'est absolument stupéfiant. Moi, je partais avec un peu de prévention, en me disant bon.
Ah, t'es pas le seul parce que j'ai entendu ça beaucoup autour de moi.
Et là, j'ai totalement abdiqué. Quoi, je veux dire, c'est stupéfiant. En effet, j'ai pas tout arrêté, mais j'ai lu. Alors, au début, on se dit, c'est un vieux renard. Il est dans des manœuvres de séduction. Il se prend à son propre jeu. Mais sauf que le temps répond. C'est-à-dire qu'au bout de plus de 30 ans. Jusqu'au bout, c'est les mêmes types de lettres, quoi. C'est tout le temps le même registre d'amour fou. C'est en effet un des monuments de la littérature amoureuse, ça c'est certain. C'est un très grand moment de littérature et de littérature amoureuse.
Et puis c'est
amoureuse.
La preuve aussi d'une passion fixe chez
c'est
un
ça,
homme qu'on a
qui
constamment traité de volage et d'infidèle.
De toute façon, j'allais dire, ça devait arriver, cette révélation, parce que l'enterrement... L'apparition d'Anne Pinjot et de sa fille à cet enterrement a été un tel truc symbolique, tellement une puissance symbolique que forcément, tôt ou tard, quelque chose d'autre serait arrivé derrière. Il y a eu l'existence de Mazarine et l'existence médiatique, littéraire, tout ce qu'on veut de Mazarine. Donc tôt ou tard, on devait y venir. Sauf que, par rapport à ce que vous disiez, Anne Pinjot, j'ai écouté moi aussi les entretiens avec Jean-Noël Jeannet sur France Culture, elle a pas réglé le problème personnel de fallait-il, ne fallait-il pas, est-ce que j'ai dû, est-ce que
j'aurais
dû. Mais on n'est pas certain qu'il aurait été content que ça soit publié. C'est tout le temps
je pense qu'il en a été très heureux. Et d'ailleurs,
bien sûr.
Tient une forme de journal, par ailleurs.
Bien sûr.
C'est un document exceptionnel aussi, sur Mitterrand.
Il y a toute une série de lettres. D'ailleurs, il lui raconte à elle ce qu'ils viennent de vivre. Et là, on voit bien que c'est, nous étions ce matin au Luxembourg. C'est bien. Parce
et surtout, il y a des moments où il commence à lui parler.
Et ça, c'est la preuve que c'était un livre qui devait rester.
Et par exemple, au moment du programme commun, quand il est en train de faire le programme commun, il parle beaucoup.
Mais quand elle résiste, elle lui reproche de s'écrire à lui-même, qu'il est le destinataire de ses
Il y a un portrait que fait Mazarine de son père lorsqu'elle a 13 ans qui est éblouissant.
Si j'aime, si une femme que j'aime m'aime, alors mon courage est immense, je vais plus loin. Écrivait Mitterrand, lettre à Anne, 62-95, c'est chez Gallimard. Une petite poignée, mais vraiment 2 minutes, j'avais inscrit le chouchou du masque et Julien Blangras, vous savez, paradis, touriste, in utero, là c'est briser la glace chez Paulsen, et c'est une virée au Groenland, où il va découvrir que... Est-ce que le goût du foie de phoque cru au petit déjeuner, ça c'est pas bon. Que Brigitte Bardot n'est pas très populaire au Groenland, il trinque avec les Inuits, il appelle les icebergs des glaçons. Il dit, contrairement aux Français qui ne donnent jamais un coin à champignons, le Groenlandais est partageur. Vous me dites vraiment en très peu de temps s'il faut lire Briser la glace de Julien Blangras, Michel.
La réponse est oui. C'est très drôle, c'est comme le livre d'avant. Et alors, j'ai découvert, il y a des icebergs, figure-toi, au Groenland, qui ont la taille de la Corse. Ben moi, je...
Il faudrait lancer un appel aux auditeurs. Si vous avez une collection de tout l'univers dont vous ne savez pas quoi faire,
je les garde. Jean-Claude,
oui, moi aussi. Je la lis tous les soirs.
Moi aussi. Oui, bien sûr. C'est très marrant. C'est bourré de plein de notations. Il se trouve que j'ai été en reportage là-bas, donc je retrouve.
Ah, monsieur connaît le
Groenland.
Oui,
monsieur connaît le Groenland. Un petit peu, il n'y connaît pas, il y est allé. Ça ne veut pas dire qu'il connaisse. Il y a plein de notations qui sont extrêmement justes, qui sont absolument formidables. Alors j'ai appris dans son livre ce que j'ignorais. Je me doutais qu'il allait nous la faire parce qu'il est vraiment marrant. C'est qu'évidemment, il a vu des Inuits manger des Esquimaux. Mais il nous raconte l'origine. L'origine de l'Esquimau, et ça vient du film de Robert Flaherty sur Nanook l'Esquimau, où on avait inventé de faire manger des glaces avec des bâtonnets aux spectateurs, et ça vient... Pourquoi l'Esquimau? Moi, je me demandais toujours pourquoi l'Esquimau.
Vous avez appris un tas de choses.
Plein.
Olivia?
Moi, j'ai appris beaucoup de choses, et je trouve que c'est un très bon cru. Il est toujours aussi drôle, mais il a une manière, je trouve, de ne jamais se moquer des gens. Il rit avec les gens, mais il ne rit jamais contre eux, ce qui est très plaisant. C'est un livre qui est dénué de cynisme, et il sait faire aussi une autre chose, c'est faire partager la beauté d'un paysage sans que ce soit niais ou ridicule. Il a vraiment un talent fou, et puis après, on découvre plein de choses sur le Groenland, alors qui, je dois dire, m'était totalement inconnu, moi, contrairement à Jean-Claude.
Arnaud?
Oui, j'ai découvert que la Corse pouvait avoir la taille d'un iceberg. J'y pensais depuis un moment. J'avais cette idée de la Corse comme ça. Mais quand même, là, ça m'a frappé.
T'imagines?
Et surtout, j'ai rêvé d'avoir un éditeur comme le sien, parce que c'est quand même son éditeur qui lui dit, écoute, j'ai un bateau, voilà, si tu veux faire une croisière au Groenland. Moi, j'adorais avoir un éditeur comme ça.
Il a changé d'éditeur. Avant, il était au Diable Vauvert.
Ouais,
maintenant, il est chez Paulsen.
Oui.
Paulsen,
voilà. Mais parce que Paulsen publie beaucoup de choses sur les glaces. Enfin, je veux dire,
tu vois, Non, mais vous imaginez, quoi. J'adorais avoir un éditeur qui me dit, Arnaud, j'ai une villa aux Bahamas. Tu veux pas faire un livre sur la prostitution aux Bahamas? Tu vois, il faut que tu payes un peu de ta personne, mais les notes de frais, c'est réglé par ma pomme.
Il l'envoie sur un bateau alors qu'il sait absolument pas naviguer.
Non, il sait absolument pas naviguer. Donc, quand même, là, on se dit, il y a encore des éditeurs en France. Hein,
Briser la glace, c'est donc Julien Blangras qui reste l'ami du Masque et la Plume.
Ah oui, plus que jamais.
Et c'est chez le très bon éditeur Paulsen.
Oui, excellent.
Un conseil pour finir cette émission, Arnaud.
Un premier roman qui se lit comme un essai, ou un premier essai qui se lit comme un roman, c'est Un monde libre de Lancelin, qui vient d'avoir le prix Renaudot, je crois. Essai. C'est le livre où j'ai lu la phrase la plus drôle de la rentrée littéraire. On la doit à ce regretté cher Philippe Muret, qui disait à Aude Lancelin, si vous vous en prenez à Bernard-Henri Lévy, on vous coupera l'électricité et un jour les éboueurs ne passeront plus dans votre rue. Qui est une phrase que j'adore, qui est assez juste. Et la chose aussi la plus intelligente que j'ai lue aussi de cette rentrée littéraire, c'est à propos de Houellebecq, puisqu'il y avait la une de l'Obs sur Houellebecq au moment des attentats. Et Aude Lancelin parle du rendez-vous chamanique de Michel Houellebecq avec l'histoire. Et je trouve ça très juste.
Voilà. Le conseil d'Olivia.
Un récit qui s'appelle « Calme et tranquille » de Valérie Manteau au Tripode. C'est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo et qui raconte une sorte de traversée de sa vie qui commence par le suicide de sa grand-mère dans une famille où on se suicide encore plus que dans le livre de Jean-Paul Dubois, qui raconte les gens de Charlie comme j'ai jamais vu quand ils étaient encore vivants. Et on a l'impression qu'on est dans leur bureau. Les descriptions sont géniales.
Et des fêtes, des soirées au restaurant. Il y a une soirée au restaurant absolument incroyable.
Une espèce de courbe maternelle et un portrait de Wolinski qui est génial, tout ça en très peu de lignes. Et après, comment elle va traverser cette tragédie. C'est une espèce de traité de résistance contre la bien-pensance. C'est absolument magnifique.
Je vous conseille un livre qui est un recueil d'entretiens qui est signé Philippe Solers avec Franck Nouchi. Ça s'appelle Contre-attaque. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est formidablement réjouissant, méchant parfois. D'ailleurs, y compris pour François Mitterrand, qui a falsifié l'histoire, dit Solers. Bourdieu, Régis Debray, Finkielkraut en prennent pour leur grade. Et en même temps, on découvre dans ce livre d'entretien qu'il va bientôt publier sa longue correspondance amoureuse avec Dominique Rollin.
Oui. Voilà, génial.
Et pareil, 1200 pages, je crois. Le conseil de Jean-Claude.
Aucun rapport avec Solaire, ça s'appelle Un dangereux plaisir, et c'est de François Valéjo. Je trouve que c'est un auteur dont on ne parle pas assez. 11 livres, prix du Livre Inter. Quand il sort un livre, je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Là, c'est un livre sur la cuisine, sur un cuisinier. Et ce que j'aime chez lui, c'est le rapport du style avec la façon dont ça dérive lentement vers une sorte de folie douce. Et j'aime bien retrouver ça dans chacun de ses livres. Donc, Un dangereux plaisir. Et c'est chez Viviane Ami.
Et on finit avec Michel.
Alors moi, j'ai pas tout à fait fini de le lire, le livre, mais c'est un très beau livre.
Ça va être rapide.
Très très beau livre. Ça s'appelle Malraux et les poètes. Donc c'est une espèce d'exploration de la présence des poètes dans l'œuvre de Malraux. Et c'est vraiment magnifique. Alors c'est Mallarmé, Blaise Cendrars, etc. Et il y a une correspondance inédite avec Max Jacob qui est magnifique.
Et c'est chez
aux éditions Hermann.
Très bon éditeur d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait, mais je conseille toujours des bons éditeurs.
Et tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Michel Crépu et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, à la technique, au Sacha Guitry, il y avait Jaizan Taous, Julie Garraud, ainsi que Diana Alcide. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 17 novembre. Je vous attends à 20h dans ce même studio, Sacha Guitry de la Maison de Radio France, pour deux émissions, l'une consacrée au film, l'autre au livre. On parle de cinéma la semaine prochaine. Et je vous dis dans une semaine sur France Inter, évidemment.